mais ça va être la fin de la société. Et pas pour le réchauffement. On parle beaucoup de ce réchauffement climatique. Vous savez pourquoi Dieu il va intervenir? Regardez dans... Il y a un verset qui nous dit pourquoi est-ce que Dieu il va intervenir dans cette société. Hein? Chapitre Matthieu 24. Pourquoi est-ce que le Seigneur il va intervenir? Pas pour mettre la fin du monde, mais pour mettre fin à cette société. Hein? Le chapitre 24 et le verset 12. Voilà ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle. Hein? Et nous qui sommes bibliques, nous devons... Pourquoi est-ce que Dieu il intervient? Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi est-ce que Dieu va intervenir? Parce que l'amour, il se refroidit. Pas pour le réchauffement, mais parce que l'amour, il se refroidit. Regardons l'état de ce monde aujourd'hui. Il y a des endroits où les gens ils n'ont rien à manger. Personne ne partage cet amour. L'amour, il se refroidit. Et Dieu, qui a les droits de ce monde, dans ce monde, il a les droits et il va intervenir. La patience de Dieu est à la limite. Pourquoi? C'est le réchauffement climatique. Non, c'est parce que les gens, ils n'ont plus aucune conscience de Dieu. Dieu, il est patient jusque-là, mais il va intervenir. Et il va mettre fin à cette société qui ne veut pas de lui. Le frère, il nous l'a dit, Dieu, on l'a vu dans les psaumes 99, Dieu est souverain. Il va intervenir hein, dans cette société et nous devons lui donner gloire et honneur. Mais avant de faire cela, il y a quelque chose que le Seigneur il va faire. Et c'est une promesse qu'il nous a laissée à nous, qui lui avons fait confiance, à nous qui sommes ses instruments, à nous qui sommes ses témoins. De ne pas avoir peur de ces soi-disant réchauffements climatiques, de ces gens qui se mettent contre nous, le Seigneur il nous a fait une promesse. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean, chapitre 14. C'est des versets qu'on connaît, mais que nous devons avoir toutes ces promesses de Dieu au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ces promesses-là qui doivent nous encourager à persévérer, à continuer à travailler pour lui. Chapitre 14. Envoya ce monde qui va à la destruction. Voilà ce qu'il dit, le Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Chapitre 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pas seulement croire en Dieu. On demande des fois déjà, est-ce que vous croyez en Dieu? Tu dis, ah oui, je crois en Dieu. Mais ici, Jésus, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Sans Jésus, on n'arrive pas à Dieu. Même si on met dedans le saint, ou si on met dedans sa mère, sans Jésus, on n'arrive pas à Dieu. Voilà pourquoi il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et voilà ce qu'il dit à tous ceux qui ont cru en Jésus, qui croient en Jésus, qui mettent leur confiance en Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais il y a de l'endroit dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Le « vous » encore ici, c'est les chrétiens, c'est ceux qui ont fait confiance au Seigneur Jésus. Hein? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà la promesse. Je m'en vais vous préparer une place, mais je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Pour faire quoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où est-ce qu'il est Jésus à ce moment? Il est dans le paradis de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Et il a dit, ne craignez pas tout ce qu'il y a dans ce monde. Je vais revenir et je vais vous prendre avec moi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et la Bible, il nous parle de ce retour du Seigneur. Et ce retour, il va se faire en deux étapes. Nous devons connaître ces choses-là. Première étape, le Seigneur Jésus, il viendra dans les airs. La deuxième étape, il viendra sur terre. Nous allons voir ces deux étapes, parce que c'est quelque chose de très important, que nous soyons bien informés sur ces choses-là. Parce que les promesses de Dieu, Dieu c'est un Dieu fidèle, et il va tenir ses promesses. Dieu n'est pas comme moi, je suis un menteur, ou comme vous. Nous sommes des menteurs, mais Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Hein? Et nous allons voir toutes ces choses-là. Par exemple, d'abord, que se passera-t-il quand Jésus viendra dans les airs? Qu'est-ce qui va arriver? Ouvrez vos Bibles dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Ici, il parle aux Thessaloniciens, qu'il disait, oui, le Seigneur Jésus va revenir, mais ceux qui sont morts, ils ne participeront pas à ce retour. Et ici, Paul, il nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons l'espérance. Et quelle est cette espérance? Cette promesse qu'il nous a faite. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voilà, et rassurez. Ceux qui sont morts, ils sont morts dans le Seigneur. Ne vous occupez pas d'eux. Ils vont être là quand je vais revenir. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas d'après la parole de quelqu'un, mais d'après la parole du Seigneur. C'est lui qui a dit ces choses-là. C'est lui qui a révélé ces choses-là. Qu'est-ce que c'est qu'il a dit? Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Voilà, ceux qui sont décédés, nous qui sommes vivants, nous n'allons pas être ressuscités avant. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, voilà, ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront premièrement, avant les vivants. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont en terre. Comme l'a dit quelqu'un, ils ont beaucoup plus de trajets à faire et pour sortir. Hein? Voilà, c'est d'abord ceux qui sont morts en Christ, ils vont être ressuscités. Verset 17, ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Pourquoi sur les nuées? Parce que le Seigneur, lorsqu'il va revenir, il s'arrête sur les nuées. Il ne descend pas sur terre, mais il reste sur les nuées. Et avec, comme un aimant, il va attirer tous ceux qui lui ont fait confiance. Ils sont morts. Et nous qui serons vivants, si nous sommes vivants, hein? Parce que le Seigneur, il n'est pas venu, nous sommes vivants, nous pouvons mourir. Hein? Mais si le Seigneur, il vient, si nous sommes vivants, il va nous transformer, il va nous enlever. Nous ne passerons pas par la mort. Et pourtant, la Bible dit que tous doivent mourir. Hein? Mais ça c'est la grandeur de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Nous passerons outre la mort. Le Seigneur, il va nous changer, il va nous transformer. C'est ça la promesse que le Seigneur il nous fait. Et c'est cette promesse-là que nous devons garder au plus profond de nous-mêmes. Oui, le Seigneur, il va venir prendre tous ceux qui lui ont fait confiance. Mais, encore une fois, il faut lui avoir dédié notre cœur. C'est comme ça que le Seigneur, il va prendre ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, nous devons propager cette parole. Le Seigneur Jésus, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et c'est l'appel que nous devons lancer à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu es fatigué, tu te sens chargé par tes péchés, par tes souffrances, par tes peines. Jésus, il est là. Et si tu lui fais confiance, toutes ces choses-là, ils vont passer. Pourquoi? Parce qu'il va t'aider à vivre cette vie. C'est ça l'appel. Et tous ces gens-là, nous devons les faire participer à cette promesse. Car si le Seigneur il a fait ses promesses à nous, il est prêt à le faire aux autres aussi. Il a dit lui-même, « Je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. » C'est ça la promesse que le Seigneur il nous fait. Et si nous nous laissons convaincre par le Saint-Esprit, parce qu'après l'enlèvement, hein, ça veut dire amener loin. C'est-à-dire qu'il prend ceux qui lui appartiennent et les amène loin, où? Dans les airs, dans le paradis de Dieu. C'est ça l'enlèvement. Et c'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Qu'est-ce que c'est que nous espérons? Un monde meilleur? Non, nous espérons le retour de Jésus-Christ. C'est ça notre espérance, le retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est très important. Que se passera-t-il? Quand il va arriver cette chose-là? Quand c'est que le Seigneur il va venir? Ben, lui-même le dit dans Matthieu 24, verset 30. Il dit, personne ne le sait. Personne ne le sait. Et pourtant, malgré que ce soit une parole biblique, beaucoup, ils donnent des dates, ils affirment, le Seigneur, il a dit, à un certain moment, on vous dira, le Christ est là, le Christ est là, le Christ est là. Ne le croyez pas. Des dates, beaucoup il y en a qui donnent des dates. Juste un exemple, j'ai ici, en préparant ce message, je lisais ce livre des témoins de Jéhovah. Hein? Ils ont donné 5 dates que le Seigneur revenait. Est-ce que le Seigneur est revenu? Non. Personne le sait, sauf le Père. Et dans Corinthiens, il nous est dit, lorsque la trompette sonnera, c'est là que le Seigneur Jésus s'élèvera de son trône et il viendra prendre le sien. C'est ça notre espérance. Autre question, c'est, mais que se passera-t-il une fois que nous serons enlevés? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous sommes dans le ciel avec notre Seigneur et Sauveur, avec notre Dieu. Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais premièrement, la chose qui va nous arriver, c'est que nous passerons sous un jugement. Parce que le Seigneur, il veut présenter son Église à son Père. Sainte, pure, irréprochable. Et c'est dans ce tribunal-là, c'est pas un jugement pour les saluts, mais c'est un jugement de ce que nous avons fait, des biens ou de mal pendant notre vie, ici-bas, sur terre. On en a parlé ce matin, hein, que le Seigneur, il a distribué des talents. Hein? Et à ceux qui ne font rien, le Seigneur, il dit, méchant, serviteur et paresseux. Et par rapport à ce que nous avons fait ou pas, le Seigneur, il nous donnera des récompenses. Quand c'est que cela va arriver? Personne ne le sait. Mais le Seigneur, il nous donne des signes. Et je vais vous lire un signe hein, dans Matthieu 25. Matthieu 25. Beaucoup, ils voient ça comme quelque chose que ce n'est pas intéressant. Hein? 25. Je le trouve, normalement il y est, je suis dans Luc. Hein? Matthieu 25. Le verset 21 et 23, je crois que c'est. Ça, c'est pour les récompenses, n'est-ce pas? Hein? Bon et fidèle serviteur, hein? Tu as travaillé, voilà, je te donne une récompense. Hein? Et ça, c'est quelque chose que nous devons... J'en ai parlé ce matin, et des fois, ça, j'ai mal au cœur de voir... pas spécialement ici, hein, parce que je tourne dans des différentes églises. Hein. Je vois des chrétiens, des gens qui ont le Seigneur dans leur cœur et qui sont là que le dimanche. C'est pas seulement ici, mais les frères, les pasteurs dans d'autres endroits, ils me le disent pareil. Études bibliques, réunions de prière et tout ça, il n'y a jamais personne. Et j'ai mal au cœur de... Avec toutes les possibilités qu'on a au plus profond de nous-mêmes, le Saint-Esprit en nous, nous sommes dirigés, nous devons travailler, nous avons tout ce dont nous avons besoin et nous ne le faisons pas. Nous nous limitons les dimanches, les cultes. Nous nous limitons et c'est là. Voilà pourquoi le Seigneur il nous dit, vous avez la possibilité, je vous ai tout donné. Alors mettez ça en pratique. Et ce verset que je voulais vous montrer, c'est les signes, hein, je crois que c'est dans, pas en Matthieu, mais dans Luc, qui parle dans le figuier, là, chapitre 19. Peut-être c'est dans Luc, j'ai mal noté, vous voyez des fois quand on fait les choses, 19, 17. Non, s'il traite toujours la même chose. Hein? Mais il parle du figuier. Le Seigneur Jésus, il leur raconte une parabole. Il leur parlait de ces signes. Et il leur dit, lorsque vous verrez le figuier porter ses fruits, alors levez les yeux, car le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce qu'il veut nous dire cela? Lorsque vous verrez le figuier, savez-vous qu'est-ce qu'il représente le figuier? Le figuier, c'est l'emblème d'Israël. Lorsque vous voyez le figuier porter ses fruits, c'est-à-dire revenir, hein, reporter des fruits, revivre, lorsque en 48, on a vu la nation d'Israël renaître des cendres, dans lequel il était, dans lequel Dieu l'avait laissé. Lorsque Israël, en 48, il a commencé à revivre, à devenir une nation, et le Seigneur, il lui dit, alors, sachez que le royaume de Dieu est proche. Mais encore, nous ne savons pas le temps. Nous ne savons pas le temps. Voilà pourquoi nous devons veiller et prier ces choses-là. Autre chose qui va se passer dans le ciel une fois que le Seigneur il nous a présenté à son Père, hein, ça va être les noces de l'agneau. Qui c'est l'agneau? C'est Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui c'est l'épouse de Jésus-Christ? Mais c'est nous, l'Église. Il va y avoir le festin des noces. Nous, parce que maintenant nous sommes fiancés. Paul lui a dit, je vous ai fiancés à un seul Seigneur. Nous sommes fiancés, mais il y aura les noces dans le ciel. Marie avec Joseph, ils n'étaient pas mariés, ils étaient fiancés. Ils étaient juste promises. Et nous sommes fiancés du Seigneur. Mais dans le ciel, il y aura le mariage. D'ailleurs, il y a un verset d'Apocalypse qui nous dit « Heureux ceux qui prennent part au mariage de l'agneau » et Qui c'est qui prend part au mariage de l'agneau? Ben, c'est nous. Nous serons assis à la droite de Dieu, de notre époux Jésus-Christ. Et il nous est dit que nous régnerons avec lui. Apocalypse nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. La persévérance, malgré toutes les choses qui se passent ici-bas, persévérons, car le Seigneur il nous donnera la couronne de vie. Hein? Et il y a aussi dans Daniel 12, verset 3, regardez ce qu'il nous dit, Daniel, ça c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Il nous dit, et les sages, encore l'étude de ce matin, hein, ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit qu'ils sont les sages, ils ne sauront pas me répondre. Hein? Qui sont les sages? C'est ceux, c'est les chrétiens qui ont travaillé pour le Seigneur. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui auront instruit beaucoup, hein, ils brilleront comme des étoiles. Ceux qui auront instruit beaucoup, c'est ceux qui travaillent pour le Seigneur. C'est ceux qui œuvrent pour le Seigneur, c'est ceux qui témoignent pour le Seigneur. Ils vont briller encore plus que les étoiles. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Parce qu'ici-bas, on a vu mercredi, nous sommes la lumière du monde. Non, Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Pas moi spécialement, ou toi spécialement, mais vous, l'ensemble, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des lumières, mais nous devons montrer la seule et unique lumière que Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons cette grande grâce de pouvoir dire « J'appartiens au Seigneur. Je serai l'épouse. » Vous vous rendez compte, en tant qu'Église, nous serons assis à la droite de Jésus-Christ. Nous serons son épouse. On a un Dieu qui manifeste sa grâce de plus en plus. Comme l'a dit David, j'aime bien le psaume 23, « Ma coupe déborde. » Le Seigneur, il donne beaucoup plus de ce que nous demandons. Il fait déborder afin que les autres tout autour de nous ils puissent profiter de cela. Et ça, c'est quelque chose de très pour nous. Voilà pourquoi nous devons être ces témoins. Et vivre toutes ces choses-là, nous serons assis. Et une fois qu'il y aura eu ce mariage, nous régnerons avec le Seigneur pendant 1000 ans. Ici-bas, sur cette terre. Régner ici-bas. Je ne suis rien ici-bas, pas d'argent, mais lorsque je serai là-haut, je vais régner. Et ainsi, vous, pareil. C'est une grâce que le Seigneur nous fait, à chacun de nous. Hein? Voilà pourquoi, troisièmement, on a dit, que se passera-t-il sur terre? On a vu ce que nous arrive, l'enlèvement, on a vu ce qu'on va faire au paradis. Qu'est-ce qu'il va se passer ici-bas sur terre, une fois que l'Église est enlevée? C'est ça, le... Qu'est-ce qui va se passer? Regardez encore dans Matthieu 25. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme... Qui c'est le Fils de l'homme? Le Messie, c'est Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, pas comme il est venu la première fois. Les versets dans la Bible, il faut savoir les lire. Il faut savoir les lire. Est-ce que Jésus-Christ, il est venu dans la gloire la première fois? Il est né dans un étable, hein? Personne n'était là pour l'accueillir. Mais ici, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir sur le trône de sa gloire. Toutes les nations s'assemblaient devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger? Quand avons-nous donné à boire? Où t'avons-nous donné? Et quand tu as eu soif? » Et il lui dit, quand avons-nous vu étranger, quand avons-nous malade? Et les rois, verset 40, le répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Il faut aussi savoir lire la Bible. Parce que, vous voyez, dans le verset qui parle, ce verset-là, il ne parle pas d'aujourd'hui, mais il parle lorsque le Jésus va revenir. Donc, si le Jésus y revient, c'est que l'enlèvement s'est déjà passé. Et il va revenir avec ses saints. Avec nous, nous viendrons avec le Seigneur Jésus. Et alors, il dit, mais quand, Seigneur, t'avons-nous donné à manger, à boire? T'avons-nous étranger? Il a dit, chaque fois que vous aurez fait ces choses-là à l'un de mes frères, qui c'est l'un de mes frères? Ce n'est pas nous les chrétiens, parce que les chrétiens, ils ne sont pas là. Mais l'un de ses frères, c'est les juifs. C'est les juifs. À l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Un peu comme lorsque Paul, de la route de Damas, vous vous en souvenez? Qui es-tu, Seigneur? Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais je ne te persécute pas. Oui, chaque fois que tu t'es tourné vers les chrétiens, c'est à moi que tu es. Et là, c'est exactement pareil. Ça, c'est le jugement des nations. Le Seigneur Jésus, il va revenir et il va juger toutes les nations, les vivantes. Toutes les nations vivantes, pas les morts. Pas les morts, mais les vivants, toutes les nations qui vont être ici, ils vont être jugés par le Seigneur. Ils vont être tous réunis dans la vallée de Josaphat, et c'est là que toutes les nations, ils seront réunis là, et le Seigneur, il va les juger. Ça, c'est le jugement. Lorsque Jésus va revenir sur terre, c'est pour amener les jugements. Ce n'est pas pour apporter le salut, mais pour juger. C'est ça que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Toutes ces responsabilités que nous avons aujourd'hui ici, nous devons les mettre en pratique. Car si nous ne les faisons pas, ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus, ils vont être condamnés. Ils iront en enfer. Aujourd'hui encore, l'Église, il est là. Hein? Nous sommes là. Nous sommes l'Église. Et si nous sommes enlevés, il y a encore plein de monde qui ne connaît pas le Seigneur. Tous ces gens qui croient qu'il y aura la fin du monde, nous devons leur dire qu'il n'y a pas une fin du monde, mais c'est la fin de cette société qui refuse Dieu, qui ne veut pas Dieu. C'est ça que le Seigneur il va mettre fin, pas le monde. Le monde, il ne sera pas détruit. Le Seigneur, il va créer d'autres mondes. Il va créer un autre ciel et une autre terre. Pour qui? Pour que tous ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont fait sa volonté, ils puissent vivre dans l'amour et dans la grâce. C'est ça que le Seigneur il veut nous dire. Mais en attendant ces jours, nous devons proclamer cette bonne nouvelle. Je l'ai dit ce matin, si nous ne les faisons pas, qui va les faire? n'est pas le gouvernement qui va vous dire « crois en Jésus-Christ hein? ». Ce n'est pas lui qui le fait. Hein? Mais c'est nous. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la seule porte de sortie de ce monde qui va à la ruine. Regardez ce qui s'est passé hier sous les Champs-Élysées. C'est ça. Mais Jésus nous dit, fais-moi confiance et tu verras. Hein? Et il va venir pour établir ce royaume. Et nous ferons partie de ce royaume. Quelle joie! On a étudié dans Matthieu, pour ceux qui sont là, Matthieu 5, hein, les béatitudes du royaume. Le Seigneur, il nous dit comment nous devons vivre, qu'est-ce que nous devons faire, quelles attitudes nous devons avoir. Pourquoi il nous dit ça? Pour que nous puissions éviter cette colère de Dieu qui va s'abattre ici-bas sur la terre lorsque l'Église est enlevée. C'est là que la colère de Dieu va s'abattre. Ce n'est pas la colère d'un roi, hein, de n'importe quel homme, mais c'est la colère de Dieu. Lisez Apocalypse chapitre 6 jusqu'au verset 19. Regardez toute cette colère, qu'est-ce qu'il va provoquer ici-bas sur la terre. Dans la mer, la forêt, les cieux, la terre. Il va y avoir un quart de la population, il va mourir. C'est ça la colère de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu s'est mis en colère? Parce qu'on n'a pas voulu l'écouter. Pourquoi est-ce que Dieu il intervient? Parce que notre amour, l'amour du monde, l'amour de la société, il se refroidit. Et pas parce que le monde il s'est réchauffé. C'est l'amour de Dieu qui compte le plus. Voilà pourquoi je voulais vous dire ces choses-là, pour que nous soyons au plus profond de nous-mêmes cette conviction et ces promesses de Dieu. Promesses que nous avons pour tous ceux qui ont fait confiance à Dieu. Mais le Seigneur, il veut que nous les partagions. Oui, c'est bon d'être avec le Seigneur, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur il a fait cette guérison, il a dit « Seigneur, permets-moi d'être avec toi, c'est bon d'être avec toi ». Il a dit « Non, non, non », il a dit « Rentre chez toi ». Et dis à ceux qui sont chez toi de faire ce que le Seigneur il a fait pour toi. Sinon Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'ils étaient sur le mont de la transfiguration, hein, ils ont vu voilà, Jésus entouré d'Élie et de Moïse. « Ah, c'est beau Seigneur d'être ici ». On va faire une tente pour toi et pour tes prophètes. Paf, les prophètes disparus. Ce qui compte, c'est Jésus. Voilà pourquoi je vous invite, si encore vous ne l'avez pas fait, faites confiance à Jésus. Car c'est le seul nom par lequel, qui nous a été donné par lequel on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a que Jésus. Que le Seigneur nous aide à regarder au plus profond de nous-mêmes et à pouvoir voir notre état de péché et à confesser ces péchés, nous repentir et nous tourner vers Jésus. Voilà pourquoi dans Jean 14, le Seigneur il nous dit, ne craignez rien, je vais revenir te prendre parce que tu m'appartiens. Je te serre dans la main et personne ne pourra t'arracher de ma main. Quel endroit merveilleux être dans les mains de Dieu pour une seule chose, pour nous bénir et pour nous aimer. Que le Seigneur nous aide à prendre les dispositions nécessaires. Amen. Amen.